Bonjour mes chers auditeurs. Que penser de la révolution ukrainienne? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Ce qui vient de se passer à Kiev, le départ du président Yanukovych, laisse rêveur. Non pas que ce personnage soit sympathique, bien au contraire, cet homme brutal et corrompu est détestable. Mais ses anciens rivaux, Yushchenko qui est décédé depuis, son prédécesseur, et Yulia Tymoshenko, surnommée la princesse du gaz, le sont à peu près autant. Il faut donc s'entendre sur ce qu'on appelle l'opposition. Il y a en réalité trois oppositions. Celle des européistes, du parti Batchikchina, représenté par la judéo-ukrainienne Yulia Tymoshenko, plus des médias occidentaux, évidemment. L'opposition libérale, UDAR, du champion de boxe Vitali Klitschko, et l'opposition nationaliste d'extrême droite, Sobloboda, ayant à sa tête Ole Tsianikbok, qui est la plus respectable, mais qui ne représente pour l'instant que 10% du corps électoral. Quand on parle d'opposition, il faut donc savoir de quoi l'on parle, ce que font rarement nos journaux. Nul n'ignore que fin 2004, les révolutions oranges, qui ont amené Yulia Tymoshenko au pouvoir et qui ont secoué la Géorgie et l'Ukraine, ont été financées par des fondations américaines comme la fondation Soros, par exemple. On se doute bien que ces organismes, agissant sous couvert de droits de l'homme, de liberté et d'autres fadaises, ne faisaient pas cela par pure philanthropie. Il s'agissait, comme au Proche-Orient, de répandre la démocratie à la sauce judéo-américaine. Ce fut relativement facile, car l'Ukraine, pays de 50 millions d'habitants, est divisée en deux. Une partie ouest occidentalisée, où l'uniatisme, c'est-à-dire les orthodoxes revenus à Rome au concile de Breslivovsk, sont nombreux, et une partie est, où les Russes sont majoritaires. Les églises orthodoxes y sont puissantes. Bref, nous avons affaire à un pays contrasté idéologiquement et donc politiquement. En février 2010, Yanukovych, chef du Parti des Régions, parti russophone, fut élu président de la République face à Yulia Tymoshenko, qu'il s'empressa d'ailleurs de faire juger et emprisonner, lui procurant ainsi la palme du martyr. En juin 2012, commencèrent des discussions en vue de la signature d'un accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Mais en novembre 2013, le président Yanukovych renonça à signer cet accord qui était presque finalisé pour se tourner vers Moscou. On peut penser que Poutine n'était pas resté inactif en ce sens. L'Ukraine, ne l'oublions pas, a été à l'origine de la Russie à l'aube des temps modernes, et Kiev, sa capitale, la métropole de l'orthodoxie. De toute façon, l'Ukraine est si proche de la Russie que toute ingérence extérieure dans ce pays ne peut qu'inquiéter Moscou. Pour compliquer le tout, l'Ukraine traverse une crise économique et financière majeure. C'est pourquoi, pour essayer de sauver le régime, Poutine a encore donné 2 milliards de dollars récemment, mais en vain, semble-t-il. La contestation a commencé le 30 novembre 2013, lorsqu'à la suite du rejet du projet d'association avec l'Europe, des milliers d'étudiants ont réclamé la démission du président et envahi la place Maïdan. Ils ont été rejoints par une foule de contestataires, de gens souvent dégoûtés par la pourriture du régime. En face de cette contestation grandissante, le régime a fait voter des lois liberticides comme chez nous. Jusqu'à ce jour, où ont eu lieu des bains de sang, c'était la semaine dernière, il y a eu près de 100 morts et 300 blessés. Et cela a entraîné le départ du président de plus en plus contesté, même dans son propre camp. Dans toute cette affaire, il est évident que Poutine a perdu une bataille, mais il n'a pas pour autant perdu la guerre. D'une part, parce qu'il ne doit pas beaucoup pleurer le départ de Yanukovych, qui était une brute épaisse, et d'autre part parce qu'il sait que l'Ukraine ne peut pas se dispenser de la Russie. Même les Ukrainiens, ces plus russophobes savent qu'ils ne peuvent pas couper les liens avec Moscou. Le président russe a bien vu aussi que l'Europe était désunie dans cette affaire. Certes, elle a envoyé à Kiev la semaine dernière les ministres des Affaires étrangères français, allemands et polonais qui ont menacé le régime de sanctions. Mais certains pays comme l'Espagne, la Grèce et l'Italie y étaient résolument hostiles. Surtout, Poutine n'a pas pu ne pas observer que les États-Unis, fatigués des guerres criminelles qu'ils ont menées pour le compte d'Israël en Afghanistan et en Irak, sont restés en arrière de la main. Il est clair qu'ils veulent se désengager de l'Europe et, ajouterons-nous, aussi du Proche-Orient. Sinon, on ne comprend pas leur acharnement à imposer une paix en Palestine à des adversaires qui n'en veulent pas. La puissance américaine se tourne maintenant vers la Chine et vers l'Extrême-Orient, laissant aux Européens le soin de se débrouiller chez eux et à leurs frontières. On connaît malheureusement l'idéologie de ces derniers. On voit où ont mené les négociations d'association entre l'Europe et l'Ukraine. Cela n'empêche pas Bruxelles de proposer des accords semblables à la Moldavie et à la Géorgie. On a l'impression que les Européens veulent se venger des Russes après les déboires qu'ils connaissent en Syrie. On le constate actuellement avec l'écho relativement faible qu'ont connu chez nous les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi. Pourtant, Dieu sait si le sport est un des moyens préférés des tristes sires qui nous dirigent pour abrutir les gens. En constatant que l'Amérique se tourne vers d'autres horizons, nos dirigeants, s'ils avaient un peu de sens national, devraient au contraire se tourner vers Poutine et vers la Russie. Nos intérêts vitaux sont les mêmes. Cela nous permettrait de nous dégager de la tutelle de Jérusalem. Mais c'est évidemment trop demandé aux carpettes qui nous dirigent. En attendant, restons prudents dans l'affaire ukrainienne. Les insurgés, lorsqu'ils font tomber par dizaines les statues de Staline, ont de très bons côtés. Mais l'atropisme bruxellois de la majorité d'entre eux est dangereux. D'un autre côté, n'étant pas démocrate, nous ne pleurerons pas le départ un peu brusqué de Yanukovych. Mais évitons de faire apparaître cela comme une victoire sur Poutine, qui est, quoi qu'on en pense, notre meilleur allié contre le mondialisme. Souhaitons que l'Ukraine suive un jour, de pont entre Rome et Moscou, afin de préparer la réunification de l'Europe, d'une Europe si mal en point aujourd'hui, après deux conflits stupides, 70 ans de communisme, et qui est soumise au mondialisme. Mais espérons que les peuples européens vont se réveiller. C'est le vœu que je fais. L'avenir nous dira s'il peut se réaliser. Au revoir, mes chers auditeurs, et au mois prochain.